Bonsoir, ou peut-être bonjour, tout dépend de l'endroit du monde où vous nous écoutez. Ici à Paris, il est pile 19h.
RFI Soir. Philippe Caplain.
Des faits, des reportages, des analyses et des commentaires, c'est RFI Soir, mais tout de suite le journal. Nouvelle libération d'otages israéliens, 3 contre 183 détenus palestiniens. Au Liban, un nouveau gouvernement formé après 2 années d'intérim. Et puis le tournoi destination de rugby, l'Italie inflige une 14e défaite de suite au Pays de Galles. Angleterre-France se joue en ce moment même. Le visage émacié, visiblement très éprouvé. 3 otages israéliens ont été libérés par le Hamas lors d'une mise en scène à Gaza avant leur remise au Comité international de la Croix-Rouge. Dans la foulée, Israël a relâché 183 Palestiniens partis vers Jérusalem-Est, la Cisjordanie occupée et la bande de Gaza. Résultat du 5e échange prévu par l'accord de cessez-le-feu. Pour la suite, il y a des inquiétudes. Écoutez celle de Kadoura Fares, président du club des prisonniers palestiniens. Il estime que la partie israélienne est tentée de faire échec à l'accord avec le Hamas.
Les renseignements israéliens ont pris contact avec les familles et les ont menacés pour empêcher les célébrations. Pour moi, cela prouve qu'ils sont anxieux. Ils savent, au fond, qu'ils ont perdu et qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser une victoire, comme l'a dit Netanyahou. Une victoire totale. Il n'y a pas de victoire totale, pas même le quart d'une victoire. L'armée israélienne a tué des enfants, détruit des hôpitaux, des écoles. On le dit depuis le début, les otages israéliens ne peuvent être libérés qu'à l'issue de négociations. Et c'est ce qui se passe de fait, contrairement aux prétentions de Netanyahou qui assurait pouvoir le faire par une opération militaire. C'est un échec. La table des négociations, c'est le chemin le plus court pour obtenir des résultats. Du côté israélien, beaucoup voient la libération de leurs otages comme la victoire. Donc, s'ils veulent une victoire, il faut poursuivre les négociations.
Et ce soir, le Hamas annonce un nouveau bilan d'au moins 48 181 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël. Non loin de là, au Liban, un nouveau gouvernement a été formé après 2 ans d'intérim et après plusieurs semaines de difficiles tractations. Nawaf Salam dit espérer que son gouvernement sera un gouvernement de réforme et de salut. Les précisions de Paul Ralifé.
Engager des réformes, instaurer l'état de droit, rétablir la confiance entre le Liban et la communauté internationale et obtenir le retrait israélien du sud du pays. Nawaf Salam a annoncé les grandes lignes du vaste programme de son équipe appelé le gouvernement de la réforme et du sauvetage, essentiellement composé de spécialistes reconnus dans leur domaine. Le gouvernement respecte cependant scrupuleusement les délicats équilibres confessionnels du Liban, mais aussi ses réalités politiques. Nawaf Salam a négocié dur avec les principaux partis et s'est concerté avec eux pour choisir ses ministres, y compris 2 personnalités chiites proches du Hezbollah et 2 autres de son allié le mouvement Amal, dirigé par le chef du Parlement Nabih Berri. La présence indirecte du Hezbollah au gouvernement intervient au lendemain d'une déclaration d'une émissaire américaine à partir du palais présidentiel à Beyrouth. Morgan Ortagus avait insisté sur le fait que le Hezbollah ne doit en aucun cas participer au nouveau gouvernement libanais. Seul le courant patriotique libre, une formation chrétienne fondée par l'ex-président Michel Aoun, ne participe pas au cabinet. L'autre grand parti chrétien, les forces libanaises, se taille la part de lion et obtient pour l'un de ses proches le portefeuille des affaires étrangères. Paul Khalife, Beyrouth.
Voilà pour l'actualité au Proche-Orient. En Afrique maintenant, plusieurs dizaines de morts dans le nord du Mali dans l'attaque djihadiste d'un convoi civil. Près de la ville de Gao, ce convoi de plusieurs dizaines de véhicules était escorté par l'armée et les mercenaires du groupe russe Wagner. La guerre en RDC, le Kenya appelle à un cessez-le-feu immédiat dans ce conflit avec le M23 et ses alliés rwandais qui ne cessent de s'emparer de nouveaux territoires. William Ruto s'exprimait à l'occasion d'un sommet des dirigeants d'Afrique australe et de l'Est réunis en Tanzanie pour tenter de trouver une issue au conflit qui dure depuis maintenant plus de 3 ans. Afrique Soir, ce sera maintenant dans 25 minutes sur Radio France Internationale. Aux États-Unis, les efforts de Donald Trump pour réduire les dépenses publiques et tailler dans le personnel fédéral, eh bien cela continue. Cela continue aussi de se heurter à la justice. Dernière décision en date, un juge qui bloque l'accès d'Elon Musk au système de paiement du Trésor. Lubna Anaki, cet accès avait été vivement critiqué et même qualifié de dangereux.
Oui, absolument. Et une note interne au Trésor américain révélée par les médias ici parle même de la plus grande menace interne à laquelle le service fiscal a été confronté. En fait, Elon Musk et Doge, son département de l'efficacité gouvernementale créé par Donald Trump, avaient pris le contrôle du système de paiement du Trésor public il y a quelques jours, provoquant une tempête de réactions. Il faut savoir que ce système gère les fonds fédéraux, y compris les salaires des fonctionnaires, l'argent destiné aux fonds de retraite ou encore les fonds du programme d'assurance maladie médicale. Il y a bien sûr des données privées, des comptes bancaires, etc. Et pour Elon Musk, eh bien, c'est, je cite, la seule façon de mettre fin à la fraude et au gaspillage de l'argent du contribuable. Pour protester contre cette prise de contrôle jugée dangereuse, les procureurs généraux d'une vingtaine d'États ont donc saisi ce juge qui a décidé d'interdire l'accès aux données du Trésor aux membres de Doge et à toute autre agence extérieure. Une décision temporaire jusqu'à une nouvelle audience prévue le 14 février.
Loubna Anaki est puisque on en est aux harangues du nouveau président américain, l'Afrique du Sud dénonce ce qu'elle appelle une campagne de désinformation et de propagande, ayant motivé la fin de l'aide américaine en sa faveur, conséquence d'une loi sur l'expropriation que Washington juge discriminatoire envers la minorité blanche. La présidence sud-africaine réfute ces derniers jours toute intention de confisquer des terres à des familles blanches. Le décret américain promet de porter assistance à la minorité ethnique africanaire descendant des premiers colons européens, y compris en leur offrant le statut de réfugiés. Autre déclaration à l'emporte-pièce de Donald Trump. Il annonce qu'il va signer un décret mettant fin à la promotion ridicule des pailles en papier par son prédécesseur Joe Biden, clamant « retour au plastique ». Les pailles, également les gobelets ou couverts jetables, sont incontournables dans la vie quotidienne des Américains, grands consommateurs de boissons, de nourriture à emporter et friands de repas livrés à domicile, Simon Rosé.
C'était un décret signé par Joe Biden, bannir aux États-Unis les ustensiles en plastique à usage unique d'ici 2035. Décret qui fait donc long feu avec cette nouvelle déclaration de Donald Trump qui marque pour le coup son opposition aux politiques environnementales de son prédécesseur et son soutien à l'industrie américaine des hydrocarbures. Le secteur a besoin de débouchés. L'Agence internationale de l'énergie anticipe un pic de la demande en pétrole dans 5 ans dans le monde. En résultera un décalage entre production et consommation. Principalement composé d'hydrocarbures, le plastique est ainsi identifié par les géants du pétrole et du gaz comme une perspective prometteuse. Mais voilà, le monde étouffe déjà sous la pollution plastique. 400 millions de tonnes de déchets sont produites chaque année. Du fond des océans au sommet de l'Everest, on les trouve partout, même dans le corps humain, dans le cerveau, le sang ou encore le placenta des femmes enceintes. Pour y remédier, un traité international est en négociation, mais les discussions sont compliquées entre partisans d'un texte ambitieux qui veulent limiter la production et les pays qui ne veulent pas en entendre parler, au rang desquels les principaux producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite ou les États-Unis. Une nouvelle session de négociation est prévue cette année.
Environ 250 000 personnes se sont réunies, mobilisées tout à l'heure contre l'extrême droite dans toute l'Allemagne, plus particulièrement à Munich. À 2 semaines des législatives, ces protestations ont été déclenchées après le début du rapprochement du candidat conservateur à la chancellerie, favori des sondages, Friedrich Merz, avec le parti d'extrême droite, l'AfD. Marine Le Pen veut qu'un référendum soit organisé sur la suppression du droit du sol. Elle exhorte, je la cite, à arrêter de parler, débattre, blablater, alors que le Premier ministre s'est dit prêt à entrer dans un débat sur l'identité française, incluant cette question très sensible. Marine Le Pen s'est exprimée en marge d'un déplacement à Madrid, réunissant de nombreux responsables d'extrême droite européens.
On n'est plus au niveau du débat, là. Vous voyez, ça fait 25 ans qu'on débat de ça. Ça commence à bien faire. Il y a une chose qui est mieux que le débat, c'est le vote. Voilà. Alors s'il veut, il fait un référendum pour changer la loi, car il ne s'agit même pas de changer la Constitution, c'est uniquement la loi. Est-ce que vous êtes d'accord pour le projet de loi supprimant l'acquisition de la nationalité par le droit du sol? Voilà. Et il fait le référendum. Et on arrête de parler, on arrête de débattre, on arrête de blablater, on propose aux Français de donner leur avis et on le respecte. Moi, il n'y a que ça qui arrivera à me convaincre.
Dans le cadre d'une filature visant une filière de passeurs entre la France et la Grande-Bretagne, un homme a été tué, un policier du raid blessé. C'était lors d'un échange de tirs survenu sur une aire d'autoroute près de Dijon. Et puis 4 départements du sud du Massif central, l'Ardèche, la Haute-Loire, la Lozère et l'Aveyron se trouvent en vigilance orange pour neige-verglas, tandis que la Somme reste en alerte orange pour les crues, selon Météo France. En Lozère, par exemple, il vient de tomber près de 40 à 50 cm de neige. Il est 19h10 ici en France. Venons-en maintenant à l'actualité sportive. Sofiane Amazian, le rugby pour débuter, deuxième journée du tournoi des Six Nations, et en ce moment le 15 de France affronte l'Angleterre.
Ouais, les Bleus, Philippe, qui ont soigné leur entrée en lice dans le tournoi en battant le Pays de Galles 43-0 en face, le 15 de la Rose est allé perdre à Dublin face à l'Irlande, ça joue en ce moment même, 61e minute de jeu, et c'est la France qui mène pour l'instant 18-12. Et puis un peu plus tôt dans la journée, l'Italie s'est imposée face au Pays de Galles 22-15, les Gallois qui enchaînent une 14e défaite consécutive.
Le football, c'est le match du week-end. Il a lieu en Espagne. Choc au sommet à Madrid entre l'Atlético et le Real.
Les Merengues qui trônent en tête de la Liga avec 49 points. Un point derrière, ce sont les Colchoneros du français Antoine Griezmann en jeu sur ce derby madrilène. C'est la première place des Colchoneros, on le rappelle, invaincu depuis 5 matchs, 14 buts encaissés seulement en 22 rencontres de Liga disputées. En face, c'est une armada, Kylian Mbappé, l'anglais Jude Bellingham, les brésiliens Rodrigo et Vinicius Junior. Et puis côté arbitrage, Philippe, beaucoup de polémiques autour du Real ces dernières semaines, mais le coach de l'Atlético, Diego Simeone, ne préfère pas y penser.
Honnêtement, je ne pense pas à la façon dont l'arbitre va se comporter, mais plus à la manière dont nous allons devoir jouer ce match. Et j'espère que nous allons faire ce qu'il faut dans la lignée de nos dernières prestations, sachant que nous allons avoir face à nous un rival avec d'immenses individualités. Nous allons donc devoir les surveiller de près. Est-ce que l'arbitrage va conditionner le match? Pardonnez-moi, mais je n'ai rien de plus à ajouter. Mon rôle, c'est d'être totalement concentré sur cette partie. Je note simplement que toutes ces polémiques arbitrales apparaissent toujours avant les rendez-vous importants. Mais personnellement, seul m'intéresse la manière dont mon équipe va jouer ce match pour la suite très important.
Et coup d'envoi de ce Real Atlético, c'est dans moins de 2h, 20h, temps universel.
Le football en France, cette fois, suite de la 21e journée de Ligue 1. Alors, cela vient de se terminer, hein, et Nice s'impose logiquement à domicile contre le RC Lens.
Les Aiglons qui en profitent pour monter provisoirement sur le podium de la Ligue 1 grâce à leur victoire 2-0, c'était face à Lens, les buteurs Gaëtan Laborde et Jonathan Clauss. Ce soir, à un autre match, le Stade Rennais qui se déplace à Saint-Etienne avec l'espoir de confirmer sa victoire contre Strasbourg dimanche dernier. La première victoire après 5 défaites consécutives, un succès que le club breton doit en grande partie à son gardien Brice Samba, le gardien international français, semble enfin trouver ses marques avec son nouveau club.
Oui, c'est peut-être mon match peut-être le plus abouti depuis que je suis arrivé au Stade de Rennes. Voilà, ça a pris 5 matchs. Je savais que ça allait arriver. Je travaille au quotidien très dur pour être décisif au quotidien, être performant. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi ouvert les portes de l'équipe de France. Donc l'intégration se passe bien. J'apprends à connaître les gars, j'apprends à connaître un peu tout le monde. Apprendre mes repères un peu dans son entraînement, donc tout se passe bien. Voilà, le plus important, moi je suis ici, c'est pas pour ma petite personne, c'est de remporter le maximum de matchs possible, mais en tout cas, de mon cas personnel, je suis plutôt satisfait.
Et Saint-Etienne, Stade Rennais, coup d'envoi au stade Geoffroy Guichard, 20h05, temps universel.
C'est noté, Sofiane Amazian.
RFI Soir. Philippe Caplain.
Le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle bat son plein à Paris. C'est à suivre, hein, vous le savez, dans plusieurs émissions de Radio France Internationale. Amaury de Rochegonde, il y a les espoirs, mais également les craintes et les dangers de cette technologie, ce qu'elle peut faire peser sur le journalisme.
Oui, l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, a publié cette semaine une cartographie des usages de l'IA pour le journalisme. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que l'IA offre pas mal d'avantages, comme de pouvoir lui laisser les tâches répétitives pour se concentrer sur des sujets à valeur ajoutée, comme de gagner du temps dans la rédaction, la vérification et même l'enquête. On l'a vu dans les Panama Papers ou d'autres fuites de documents. Il est très utile de pouvoir interroger une masse de données à partir d'un robot pour extraire un compte, des liens, des ramifications. L'IA offre aussi de mieux connaître l'internaute et donc de lui adresser un contenu qui corresponde davantage à ses centres d'intérêt, qui favorise son engagement sur les réseaux sociaux. Elle peut aussi aider à créer des titres pertinents ou à faire remonter des tendances, sans compter bien sûr les traductions automatiques qui peuvent rendre accessibles des médias de multiples pays.
Mais la technologie ne suscite-t-elle pas aussi des craintes dans les rédactions?
Si, bien sûr, et pas seulement la crainte de perdre son emploi. On peut se demander si les journalistes ne vont pas devenir IA dépendants, façonnés par les algorithmes, avec moins le souci de la découverte fortuite sur le terrain. D'autant que ces algorithmes renvoient à ce qui a été dit écrits dans le passé, fut-il récent, ils peuvent être un obstacle à la compréhension de l'inattendu. Aussi, il y a une crainte sur les droits d'auteur. Tous les acteurs de l'IA se refusent à engager des négociations avec les médias. Le New York Times a attaqué OpenAI. Les organisations représentant 3000 titres de presse en France ont demandé mercredi que les pouvoirs publics imposent un dialogue à ces entreprises qui pillent les contenus pour entraîner leurs modèles sans les rémunérer.
Amaury de Rochegonde, il y a aussi une crainte pour l'information.
Oui, l'IA fait redouter une grande vague de désinformation, surtout avec des modèles comme celui du chinois DeepSeek qui sont plus accessibles à des manipulateurs. On a vu en Roumanie comment des milliers de comptes se coordonnant pour amplifier la popularité de mots-clés sur TikTok ont fait monter un candidat au point d'entraîner l'annulation de l'élection. Le service français Viginum estime que le même type d'ingérence peut se produire en France. France Culture a d'ailleurs diffusé vendredi une émission avec des témoignages fabriqués par l'IA pour alerter sur le risque de manipulation. Alors, l'IA favorise-t-elle les infox, les ingérences russes, ou donne-t-elle des armes aux journalistes pour contrer cette désinformation ? Les deux sans doute.
L'IA constitue donc une opportunité et une menace pour les journalistes. Autre menace, les tombereaux de critiques proférés par Donald Trump, ce sont autant de menaces qui pèsent sur l'info. Vincent Souriau, vous nous en dites plus.
Look at them back there, look at all of them, a lot of press. They're rigged. They're rigged.
C'est un poison qu'il a utilisé tout au long de sa campagne. Sur une période test de 2 mois, entre début septembre et fin octobre 2024, Reporters sans frontières a dénombré lors de ses discours plus d'une centaine de diatribes dirigées contre la presse. On parle d'effet Trump parce que cette rhétorique anti-média a des conséquences très concrètes sur la sécurité des journalistes américains. Elisa Liz Munoz dirige la Fondation internationale pour les femmes dans les médias, basée à Washington.
L'effet Trump, on l'a vu se mettre en place pendant ses meetings, par exemple. Dès qu'il pointe du doigt les médias au fond de la salle ou qu'il désigne tel ou tel journaliste, la foule les prend pour cible. Mais c'est valable aussi lorsqu'il dénigre ou critique la presse de manière générale. Tout simplement parce que dans la bouche d'un président ou d'un candidat à la présidentielle, l'impact est immédiat.
That's a lot of fake news back there.
Plusieurs reporters racontent avoir subi des violences physiques, surtout dans les États les plus polarisés où l'extrême droite a pignon sur rue, mais aussi des injures, de l'intimidation ou des menaces de mort de la part d'un électorat armé et radicalisé. Dans le Michigan, une journaliste se souvient comment des partisans de Donald Trump lui ont hurlé dessus « J'espère que quelqu'un va venir te violer avant de t'assassiner ». Pour conjurer ce phénomène, plus de 600 professionnels des médias, en particulier des femmes, ont suivi des formations spécifiques. Une sorte de kit de survie journalistique, savoir reconnaître un public hostile, travailler à plusieurs, garer sa voiture à proximité des sorties et même apprendre quelques rudiments d'arts martiaux. Mais maintenant qu'il est de retour au pouvoir, l'effet Trump prend une autre dimension. Elisa Liz Munoz assure qu'il va passer à la vitesse supérieure et s'en prendre à l'existence même de certains médias qu'il considère comme des adversaires politiques.
Je ne crois pas qu'on ait déjà vu ça, mais on s'attend à des enquêtes sur le financement des entreprises de presse, en particulier les médias à but non lucratif. Si vous prenez PBS, le réseau de télévision publique ici, vous verrez qu'à l'antenne, ils publient la liste de leurs donateurs. Telle fondation, telle corporation nous a donné de l'argent. Eh bien, désormais, le gouvernement assimile ça à de la publicité, ce qui permet de remettre en cause le caractère non lucratif de l'activité de ces médias et d'assécher complètement leur système de financement participatif.
Au classement mondial de la liberté de la presse, les États-Unis pointaient au 55e rang en 2024, soit une chute de 10 places par rapport à l'année précédente. À l'appui de cette dégringolade, Reporters sans frontières met en avant la défiance généralisée envers les médias, l'insécurité croissante qui touche les journalistes américains dans l'exercice de leur métier et l'hostilité notoire de la classe politique.
Vincent Souriau dans RFI Soir.
RFI Soir. Philippe Le Caplain.
Feuilletons à présent un livre qui a pour titre « L'Asie-Pacifique, nouveau centre du monde », signé par Sophie Boisseau du Rocher, chercheuse à l'IFRI, à l'Institut français des relations internationales, et Christian Lechervry, ancien ambassadeur de France en Birmanie. Alors, par Asie-Pacifique, les deux auteurs entendent l'Asie orientale, de la Birmanie au Japon. Quels enjeux pour la région à l'heure de Donald Trump et face à la Chine ? Sophie Boisseau du Rocher donne des éléments de réponse à Joris Zilberman.
Sophie Boisseau du Rocher, bonjour.
Bonjour.
C'est l'une des idées forces de votre livre. L'Asie-Pacifique est en voie de désoccidentalisation, c'est-à-dire...
Ça veut dire qu'elle a de moins en moins besoin des circuits occidentaux pour se développer. En fait, on est parti d'une constatation. Nous avons commencé, Christian Lechervy et moi-même, à étudier cette région il y a 35-40 ans. Et ce qui a vraiment changé, c'est que les partenaires occidentaux étaient vraiment au centre des jeux, au centre des influences il y a encore 35 ans, et qu'aujourd'hui, ils sont à la marge. L'Asie s'innerve de plus en plus et se nourrit de plus en plus de ses propres dynamiques. Et donc, il y a là un vrai risque parce qu'elle défie nos positions traditionnelles, évidemment des positions économiques, mais également des positions diplomatiques ou politiques. L'Asie Pacifique, aujourd'hui, a le potentiel de se poser comme une alternative crédible au modèle occidental, ce qui n'était évidemment pas du tout le cas il y a une trentaine d'années.
Alors, vous écrivez avec Christian Lechervy que l'une des tendances géopolitiques les plus importantes en Asie Pacifique, c'est le recentrage asiatique, la régionalisation. Comment est-ce qu'elle se manifeste ?
Cette régionalisation se fait d'abord par les réseaux marchands et les réseaux financiers. Aujourd'hui, le commerce intra-asiatique, d'une part par sa croissance et d'autre part par son poids, qui équivaut à peu près à 60% du commerce extérieur de la région, se fait donc dans la région. Le gisement de croissance pour les pays d'Asie se trouve de plus en plus dans les pays d'Asie. Il y a aujourd'hui, sur les 2,3 milliards d'habitants de l'Asie orientale, 800 millions de milléniaux, quand il y en a 66 millions aux États-Unis et 60 millions en Europe. Et ces 800 millions de milléniaux ont un pouvoir d'achat qui augmente régulièrement.
Sophie Boisseau du Rocher, dans cette logique de régionalisation, la Chine joue un rôle majeur, bien sûr. Pourtant, elle peut faire figure d'épouvantail avec ses revendications maximalistes et coercitives en mer de Chine du Sud. Comment expliquer cette contradiction ?
C'est évident qu'il y a une crainte de la domination, entre guillemets, chinoise dans la région. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les relations avec le Japon, avec la Corée du Sud, se renforcent avec l'Asie du Sud-Est, pour faire contrepoids aux ambitions de la Chine. Mais la Chine fait des efforts quand même, en même temps qu'elle envoie des messages de rigidité et effectivement d'agressivité au monde occidental par l'occupation de ces îles, elle envoie aussi des messages en même temps de réassurance à l'égard des pays d'Asie du Sud-Est, dans le cas de la mer de Chine du Sud. Et d'ailleurs, les discussions sur le fameux code de conduite sont toujours en cours et sont toujours vivantes. Mais nous, on se dit, mais c'est pas possible, ça fait depuis 20 ans que ça dure. Les pays d'Asie du Sud-Est, comme moi, je les interroge, mes collègues me disent, mais il vaut mieux qu'on soit en discussion et que ça ne dérape pas, plutôt qu'on signe rapidement un code de conduite qui nous soit défavorable. Donc c'est véritablement une autre mentalité et il faut que nous, on l'intègre aussi.
Dans ces conditions, qu'est-ce que vous pensez de la position des États-Unis en Asie-Pacifique alors que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche ?
L'Asie-Pacifique est aujourd'hui une région qui va le mieux résister aux injonctions et aux menaces de Donald Trump, parce qu'elle s'est précisément organisée. Donald Trump a menacé 60% de droits de douane. Aujourd'hui, on est à 10%. Et encore, c'est même pas sûr qu'il soit appliqué. On va peut-être aller vers des compromis. Donc, on voit bien que cette transformation silencieuse de l'Asie-Pacifique fait réfléchir quand même président américain. Ce que pensent également les pays d'Asie, c'est que le phénomène Trump n'est pas un phénomène nouveau. Au fond, il incarne ce Donald Trump et il accélère une tendance qui est à l'œuvre en Asie orientale depuis la guerre du Vietnam. Et depuis cette guerre, les États-Unis agissent de façon unilatérale.
Sophie Boisseau du Rocher, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et le titre de son ouvrage, L'Asie-Pacifique, nouveau centre du monde.
Bouaké, 97.6 FM.
Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire, où circulent de plus en plus de motos électriques. moins de bruit, moins de pollution en termes d'émissions. Toutes les raisons à cet engouement avec ce reportage d'Abdoul Aziz Diallo.
Ici à Boaké, la moto est reine. Chaque jour, elles inondent les rues, transportant des milliers d'habitants. Mais depuis quelque temps, un nouveau modèle se fait une place, la moto électrique. Silencieuse, sans émission de fumée, elle attire une nouvelle génération d'usagers, comme cette enseignante d'espagnol qui, il y a 6 mois, a fait le grand saut. Et elle ne regrette pas son choix.
C'est le côté économique qui m'a le plus attiré en fait. Par jour, je peux dépasser près de 3 000 à 4 500 dans le transport. Alors qu'avec cette moto, même si on charge une fois par jour, ça ne prend pas plus de 200 francs de consommation. Toute la journée, je peux faire mes courses sans que la batterie ne se décharge complètement.
Un plein à 200 francs CFA contre plusieurs milliers en carburant, une autonomie de 40 à 100 km pour 4 heures de charge. Ces arguments convainquent de plus en plus d'acheteurs. Firmin Kabore, l'un des premiers à commercialiser ces engins à Boaké, a vu le marché évoluer.
Au début, quand on est rentré sur le marché, les gens étaient hésitants puisqu'ils ne connaissaient pas d'abord le produit en question. Au fur et à mesure, les gens commencent à s'intéresser dans la ville. On ne peut pas faire plus de 100 mètres sans voir des motos électriques. Maintenant, on peut vendre 2 ou 3 comme ça dans le mois.
Ces modèles électriques sont vendus entre 600 000 et 1 500 000 francs CFA. Environ 200 circulent déjà à Boaké. Une tendance qui pousse même les mécaniciens à s'adapter. Boiré Souleymane, réparateur depuis une 20aine d'années, l'a bien compris.
Ça fait partie de mon travail, puisque c'est un agent des roues. Ça prend de l'ampleur, donc il faut qu'on essaie de se adapter. Si on a un coin où on peut se former, on peut aller. Ça va nous permettre aussi d'avancer dans notre travail.
Pour les experts, l'essor de ces motos électriques est une avancée positive. Le docteur Cissé Souleymane, environnementaliste, en explique les bénéfices.
Une moto thermique de 125 cm3, par exemple, consomme en moyenne 2 à 3 litres chaque 100 km, soit environ 50 à 70 g de CO2 par km. En remplaçant une telle moto par une moto électrique, on supprime ses émissions directes de CO2.
Mais malgré ces avantages, tout le monde n'est pas encore prêt à franchir le pas. Les conducteurs de moto-taxi, par exemple, hésitent encore, craignant des problèmes d'entretien et de robustesse. Abdelaziz Diallo, de retour de Boaké, RFI.
Paris, 89 FM.
Paris, ou au parc des expositions de la Porte de Versailles, se tient Rétromobile, le grand salon des véhicules anciens. Des dizaines de milliers de visiteurs s'y pressent jusqu'à demain soir pour admirer des voitures historiques, rêver d'en prendre le volant ou tout simplement acheter des pièces, des objets et assister aux ventes aux enchères. Il y a aussi la galerie des artistes. Des œuvres originales y sont exposées, comme celle de Axel Ruomoli. Quand il quitte son île Maurice natale, c'est pour parcourir dans le monde les musées automobiles et les collections des constructeurs et en photographier les plus beaux spécimens. Il les magnifie avec un travail particulier sur la lumière.
C'est un travail d'éclairage et j'ai presque envie de dire de sculpture de lumière. Donc c'est un travail lent, minutieux, patient. C'est pour ça que je travaille de nuit pour ne pas déranger, puis pour moi, pour pouvoir travailler en toute tranquillité. Alors j'ai un travail qui s'inspire des peintres de la Renaissance, donc du mouvement clair-obscur. Dans une ambiance et une signature lumière très cinématographique où l'objet émerge de l'obscurité, c'est une manière de le sacraliser. J'essaie de comprendre quelle était la ligne ou le dessin originel du dessinateur sur sa planche. Puis ce qui est important de souligner, c'est qu'en fait, chacune de mes photos raconte une histoire, une aventure humaine, une création technique. Une voiture qui m'a inspiré de par son histoire et puis de par sa matérialité, c'est le cockpit de la Porsche 936 Jules, avec laquelle Jacques X a gagné Le Mans en 1981. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est le volant. Quand on regarde le volant, il est patiné. On sent l'effort du pilote, de ses gants sur le cockpit. Et ça traduit l'effort et on comprend la rudesse de l'épreuve. Donc, c'est vrai que ça traduit une certaine émotion et ça me touche.
Axel Ruomoli, cet amoureux de la beauté de la mécanique, expose ses photographies d'art au salon Rétromobile jusqu'à demain soir. À suivre sur RFI, RFI, l'actualité en Afrique.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
L'intelligence artificielle sera au cœur d'un sommet international à Paris les 10 et 11 février. Comment la financer, assurer sa souveraineté, faire face à la concurrence? Nous recevons plusieurs chefs d'entreprise en première ligne, décidés à faire le lien entre les pays du Nord et du Sud.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.
cool.
Couleur tropicale, Claudie Ciard.
Ce lundi 10 février, Koffi Olomidé fera ses couleurs tropicales et annoncera son concert-événement prévu le 19 juillet à l'Hippodrome de Vincennes, près de Paris. L'occasion de parler musique, bien sûr, et d'évoquer la situation en RDC. Koffi Olomidé dans Couleurs tropicales, c'est toujours un événement.
Couleurs tropicales, Claudie Ciard.
Du lundi au vendredi à 20h10 TU sur RFI.